Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. La Coupe du Monde féminine de football a débuté vendredi en France et pour ce que l'on en sait jusqu'ici, c'est et ce sera un succès populaire aussi bien en termes de vente de billets qu'en termes de couverture média et d'audience télé. Le match d'ouverture de vendredi entre la France et la Corée du Sud a attiré plus de 10 millions de téléspectateurs français, sensiblement autant qu'un match des Bleus garçons en poule au Mondial. Et pourtant, ce succès est peut-être l'arbre qui cache la forêt car la vie n'est pas toujours facile pour les sportives, aussi bien en termes d'exposition, de revenus ou tout simplement d'accès au sport, sport féminin et masculin. C'est pour quand l'égalité ? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Marie-Stéphanie Abouna, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et enseignante chercheuse à l'ILEPS, c'est l'école supérieure des métiers du sport et de l'éducation. Et Annie Fortems, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pionnière du football féminin, cofondatrice et capitaine du club de football de Juvisy.
Oui.
Vous avez commencé en 1971 et jusqu'en 1984. D'abord un mot sur ce qui se passe depuis vendredi en France, cette Coupe du Monde féminine de football. On en parle beaucoup et l'événement bénéficie d'une large couverture médiatique. Résultat, plus de 10 millions de téléspectateurs devant leur écran en France vendredi soir. Ça fait plaisir, Annie Fortems ?
Ah bah oui, ça fait extrêmement plaisir. J'étais dans le stade, j'étais dans les tribunes. J'avais l'impression d'assister comme à un rêve, comme quelque chose d'irréel pour moi qui a rêvé ça. Enfin, pendant au moins 20 ans, je n'ai même pas pu le rêver d'ailleurs. Mais qui rêve
oui,
de
c'était,
ça.
C'était le Parc des Princes, hein. C'était pas le stade Dominique du Vauchel à Créteil. C'était le Parc
non,
des Princes.
Non, c'était le mythique stade Parc des Princes. Et j'avais l'impression d'assister, comme je disais, à un rêve. En tout cas, c'était merveilleux.
Oui. Est-ce que ça signifie que la cause progresse, quoi? On va le dire très clairement.
Ah bah, de toute manière, depuis 2011, je pense que autant les institutionnels, les médias n'avaient pas tout à fait compris que le football féminin était en train de gagner le cœur des Français. Mais clairement, depuis 2011, tout le monde a été surpris par l'engouement du public, l'engouement des téléspectateurs. C'est clair qu'on a senti quelque chose en 2011. Et là, effectivement, avec 10 millions, même 11 millions de téléspectateurs, si on rajoute toutes les chaînes qui diffusaient, c'est extraordinaire. Enfin, il me semble que beaucoup ont encore été étonnés dans les médias, par l'audience.
C'est vrai, je vous le confirme. Marie-Stéphanie Abouna, c'est quelque chose qui était souterrain et qui est en train d'apparaître au grand jour,
le football féminin. Oui, effectivement, on peut le dire, parce qu'au moment où je démarrais mes recherches, c'était vraiment quelque chose d'assez anecdotique. Donc, dans le début des années 2000, on parlait en fait d'une activité plutôt rigolote. Les gens, ils ne savaient pas du tout ce qui se passait. On était dans la communication juste des scores. C'était quasiment inexistant dans les médias. Mais aujourd'hui, on a vraiment cet engouement-là qui montre que voilà, il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à cette pratique-là. Mais il reste bien sûr des détracteurs.
Oui, c'était comment, je vous pose la question, Annie Fortems, de se lancer dans le football en étant une femme dans les années 70?
Ah bah ça relevait de l'inconscience, hein. Comme je dis régulièrement, ça relevait du trouble à l'ordre public. On n'était pas attendu, on n'était pas désiré, on voulait pas de nous. Ça a été un véritable combat. Nous, on a bataillé, les pionnières, pendant au moins 10 ou 20 ans. Moi, j'ai joué 20 ans. On a bataillé, nous, pour exister. C'est-à-dire, on n'était pas du tout dans l'égalité des droits. On n'en était pas là. Fallait d'abord exister pour ça. Je pense que maintenant, on va mener, en tout cas, oui, le combat à mener aujourd'hui, c'est l'égalité des droits. C'est de s'en approcher le plus possible, voire même arriver à l'égalité totale des droits.
C'est les difficultés aujourd'hui, Marie-Stéphanie Abouna, ce sont les mêmes quand on veut se lancer dans le football de premier plan, de haut niveau, quand on est une femme ou même un autre sport.
C'est pas tout à fait les mêmes difficultés, parce que une petite fille qui a envie de jouer au football, c'est pas aussi évident que ça. On a des parents qui sont obligés de faire des kilomètres pour trouver un club à une petite fille. C'est pas une évidence. Et ou alors on a des réticences de la part des parents qui trouvent que voilà, c'est contre nature de voir une petite fille jouer. Malheureusement, ça existe encore.
Il y a encore un problème de mentalité, Annie Fortems.
Oui, on l'entend encore, bien sûr qu'on l'entend encore. Alors, c'est pas aussi prégnant et aussi fort, aussi massif que nous dans les années 70.
Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est pas un sport de filles?
Ça se dit encore. Ouais, tous les témoignages que j'entends de joueuses ou d'actrices du football, même actuelles, hein, elles l'entendent encore. mais pas de la manière où nous on l'entendait, avec un sexisme, un machisme, une violence même, décomplexée, totalement décomplexée.
Oui. C'est vrai qu'on a aujourd'hui vraiment des personnes qui sont, les pionnières ont fait un grand travail de débroussaillage, et là on a aujourd'hui des personnes qui sont vraiment ouvertes. Hein. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est pas que des femmes qui encouragent aujourd'hui les petites filles à jouer au foot. C'est un peu toute une communauté, hein, tout un réseau qui bataille aujourd'hui pour faire évoluer l'activité.
Et je rappelle qu'il y a des pays extrêmement développés où le football, eh bien, c'est un sport qui est parfaitement mixte, à égalité entre les filles et les garçons. Aux États-Unis, au Canada, par exemple, il n'y a pas du tout cet aspect sport de filles, pas sport de filles, Annie Fortems.
Oui, mais ces pays-là, alors là, c'est le grand paradoxe, hein, c'est que le pays où football masculin, alors je m'excuse, mais je vais dire pour faire plus simple, football masculin et féminin, mais les pays où le football masculin est très implanté, en fait, c'est dans ces pays-là où le football féminin était le plus difficile à installer. Aux États-Unis, ils n'avaient pas la culture du football. Donc, de toute manière, pour eux, c'était pas apparenté à un sport de filles.
C'est vrai qu'on a effectivement l'impression que le foot masculin est un repoussoir pour les femmes. Plus les hommes sont implantés, moins il y a des femmes. Donc, vous avez l'exemple, l'Espagne, l'Italie, c'est les grandes nations. C'est des grandes nations de foot, mais finalement qui sont quasiment inexistantes au niveau de la pratique féminine.
Alors je le disais, il y a une mise en lumière de ce mondial féminin de football, mais cela ne signifie pas que l'égalité soit là. Une question d'ailleurs pour vous, Annie Fortems, qui connaissez bien le milieu. Les joueuses qui participent à ce mondial féminin, est-ce qu'elles sont toutes professionnelles ?
Non, elles sont pas toutes professionnelles. Alors, c'est une fake news de la presse. Non, elles sont pas toutes professionnelles. Il y a Lyon et il y a Paris Saint-Germain. Quelques autres joueuses à Juvisy, il y en a peut-être quelques-unes. Il y a quelques autres joueuses en championnat de France, notamment à Montpellier. Mais non, elles sont pas toutes professionnelles. Et elles vivent même avec de grandes difficultés financières. Où elles partagent en plus, pour la majorité, travail, emploi, pour l'avoir fait moi. Évidemment, à l'époque, on parlait pas du tout d'argent, hein. Mais pour l'avoir fait moi, c'est un travail de titan, quoi, de cumuler sport de haut niveau et emploi.
Marie-Stéphanie Aboulin?
Oui, il faut effectivement dire aux gens que la professionnalisation, c'est moins de 5% de la pratique féminine aujourd'hui, quoi. Et donc, on a le même problème qui se pose comme dans l'emploi, de conciliation des temps de vie, parce que les joueuses sont obligées de travailler, elles sont étudiantes ou elles ont une vie professionnelle à côté, et il faut pratiquer finalement l'activité du football. On ne sait plus si c'est une activité professionnelle ou juste une activité de loisir, sachant qu'il y a beaucoup de contraintes pour la pratiquer, donc c'est vraiment pas facile pour les filles.
Annie Fortems, ça gagne combien une joueuse de football professionnelle, par exemple chez les Lyonnaises que vous évoquez, qui sont quintuples championnes d'Europe, triple tenante du titre?
Bah, alors, ce qui se dit, c'est que Ada Egerberg, la joueuse la mieux payée en France et
Ballon d'or féminin, premier
Ballon d'or, gagnerait aux alentours de 400 000 euros par an. J'imagine que
c'est un honnête salaire de joueur garçon qui débute en professionnel, ça.
Bah oui, parce que le salaire moyen pour un garçon en L1, c'est 100 000 euros, quoi. Donc
mensuel.
J'imagine qu'Amandine Henry, Wendy Renard, elles gagnent 20 000 ou peut-être 30 000 euros.
Et le plus étonnant, en fait, c'est qu'il n'y a pas de visibilité sur les revenus des joueuses, parce que là, ça reste quand même quelque chose d'assez
tabou.
Ouais. On en parle pas.
On en parle assez peu en France, peut-être plus qu'ailleurs.
Oui, voilà, on en parle assez peu. Donc, du coup, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle gagne, alors que chez les hommes, on arrive à le dire. Il y a de gros contrats dès le départ et on sait à peu près qu'est-ce qu'ils ont. Mais là, aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens pour savoir qu'est-ce qu'elle gagne.
L'argent, c'est évidemment le nerf de la guerre, et ça, c'est partout dans tous les domaines de l'activité humaine. Le président de la Fédération française de football a fixé à l'équipe de France féminine l'objectif d'atteindre la finale. Alors, c'est pas dit clairement, mais Annie Fortems, on sait exactement ce que ça veut dire quand on fixe un objectif comme ça. Une fois qu'on est en finale, bah, on est censé la gagner. En cas de victoire, la prime des joueuses sera très sensiblement inférieure à celle des hommes qui ont gagné l'été dernier. C'est normal, c'est pas normal. Comment vous le vivez, ça?
Ah bah moi je suis très très agacée en fait depuis ce débat sur les salaires où certains et certaines voudraient dire c'est pas le moment d'en parler, on est en pleine Coupe du Monde, ne créons pas de troubles, d'autres le modèle économique du football féminin ne tient pas la route, elles ne gagnent pas suffisamment d'argent donc ne les payons pas. Je suis très agacée par ce débat parce que moi j'estime que les footballeuses doivent être payées, elles doivent avoir un contrat, elles doivent avoir un statut, elles doivent avoir des salaires qui tombe, c'est pour moi à la FFF, à la FIFA de s'organiser. On doit rémunérer les joueuses de D2, on doit rémunérer les joueuses de D1 correctement, avec des salaires minimums comme ça se fait dans certains pays. Et les écarts de salaire justement entre 2 500 € pour une footballeuse moyenne et 100 000 € pour un joueur moyen en L1, c'est quand même ahurissant.
On est dans une sorte d'amateurisme marron, oui, oui. Marie-Stéphanie Abouna.
Je vais juste revenir sur ce qu'elle a dit, c'est que là, on peut pas. Le football n'est pas en dehors de la société. Le football fait partie de la société et on est en droit de soulever justement ces questions de société qui se posent aujourd'hui justement sur l'inégalité salariale. Si on n'aborde pas cette question aujourd'hui lors d'un événement tel que celui-là. À quel moment il va falloir qu'on l'aborde. Donc du coup c'est pas possible. On est dans un événement qui mobilise sur le plan international et on profite donc de cet événement et on peut pas l'éviter. C'est un moment de lutte dans le sens de la légitimité pour asseoir la légitimité de la pratique féminine.
C'est justement le bon moment, hein, c'est ce que vous nous dites.
Moi, je trouve que c'est le bon moment. De toute manière, on le voit. Hein, les Américaines ont attaqué leur fédération. Les Australiennes sont en train de faire grève ou en train de batailler pour avoir l'égalité des droits au niveau salaire.
La Ballon d'Or, voilà, décide de ne pas participer.
Qui a refusé de jouer dans son équipe nationale.
Les joueuses de tennis se sont longtemps battues pour avoir les mêmes primes à la fin des tournois que les garçons.
Bien sûr. Oui, il y a eu ces luttes-là.
Et
c'est le cas aujourd'hui. Donc, on a besoin justement de ces combats-là. Sinon, les choses, moi, il me semble, hein, ne bougeront pas.
L'argent du football, Annie Fortem, c'est vous me pardonnez. De me faire un petit peu l'avocat du diable, ouais. Quand vient largement des droits télé, donc des abonnements, et c'est quand même essentiellement le football des garçons qui déclenche l'abonnement à une chaîne payante pour voir du football. Est-ce que le football féminin pourrait déclencher l'abonnement à l'avenir? Est-ce que vous pensez que, ouais, il va y avoir le mondial sur telle chaîne, et ben je vais m'abonner? Voilà.
Le jour où on mettra les mêmes moyens qui ont été mis dans le football masculin depuis 50 ans et même plus, le jour où on mettra exactement les mêmes moyens humains, financiers, médiatiques, politiques, institutionnels dans le football féminin, je pense qu'en 10 ans, on est au même niveau. Et je pense qu'on peut soulever l'engouement des gens et même des abonnements.
Oui, c'est effectivement un travail en amont qu'il faudrait faire parce qu'il ne faut pas attendre des résultats alors qu'en amont, on n'a pas mis tous les moyens possibles.
Exactement.
Mais je vais vous rappeler quand même qu'on a déjà des compétitions qui sont diffusées sur des chaînes payantes. Mmh. Ça existe déjà au niveau. Tout le championnat de première division est diffusé de cette manière-là.
Oui, Annie Fortems.
Et je pense que c'est un débat faussé. On peut pas comparer le football masculin, comme je vous dis, où on a investi massivement. Moi, j'ai été chef d'entreprise pendant 20 ans. Quand je développais un secteur d'activité, j'attendais pas qu'il soit rentable pour payer mes salariés. Enfin, ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune entreprise qui fait ça. Aucun investisseur ne fait ça. Donc, on développe un secteur d'activité qui s'appelle football féminin. On met l'argent. Et puis après, on voit. Mais ça s'appelle le risque de l'entreprise. Et je rappelle aussi que la FFF et les autres institutions ont une mission de service public. On a créé le sport pour les hommes, par les hommes, pour que les hommes soient encore plus hommes et restent hommes. On s'est pas demandé combien coûtaient les stades. On s'est pas demandé combien coûtaient les gymnases. On s'est pas demandé si ça allait être rentable. C'est quand même les pouvoirs publics qui ont payé tout ça. On s'est pas demandé tout ça.
Et il me semble que aujourd'hui la fédération met quand même ces moyens là et on voit les résultats parce que dans les années 2000, on était encore l'organisation de la pratique était assez balbutiante et on a mis en place des sections foot études pour les filles, ce qui n'existait pas avant. Les filles ont eu accès à Clairefontaine et on voit aujourd'hui les résultats. Donc ça signifie qu'à partir du moment où on investit, on aura les résultats.
En une génération et demie, on voit les résultats, on y est aux résultats. Mmh. On est les résultats. L'équipe de France, dans les années 2000, je crois qu'elle était classée 9e à la FIFA. Mmh. On a mis les moyens. Oh là, c'est arrivé. Toute l'équipe de Noël Le Graët est arrivée. Avec Brigitte Henriquez, avec Frédéric Jossinet, avec Florence Ardouin. Toute l'équipe, d'abord, il a commencé par féminiser les instances, déjà, pour commencer. Et ça, c'est quelque chose qui est
on
important.
On va en parler, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Allez-y. On va peut-être d'abord élargir le sujet, Marie-Stéphanie Abouna. C'est plus difficile pour une fille, pour une femme, ensuite, mais pour une petite fille, même au départ, d'accéder à la pratique sportive.
J'ai essayé de comparer en fait la pratique du football et les autres pratiques. Et il faut dire en fait que les personnes qui ne pratiquent les filles qui ne pratiquent pas le foot ne se déportent pas sur d'autres pratiques. Mmh. Hein. On a encore des pratiques de masse où on a moins de filles. En hand, il me semble qu'elles sont 35%. D'accord. Et donc par contre, dans le football, on a 170 000 licenciés aujourd'hui. C'est quasiment une fédération de foot. Donc, ça signifie qu'en fait, il y a un travail de départ à faire aujourd'hui pour les filles. Parce que le sport, il reste d'abord dans les représentations, quelque chose de masculin.
De très mal, oui. Hein, c'est exactement ça. Voilà. Quels sont les obstacles concrets que rencontrent les filles, Annie Fortem, si elles veulent jouer, au foot, puisque c'est votre spécialité?
Concrètement, une fille qui veut jouer au foot c'est déjà de trouver trouver un club à proximité. Il y en a de plus en plus, mais maintenant avec l'autorisation du foot mixte, les petites filles peuvent intégrer un club de garçons et jouer en mixte pendant un certain temps.
Mais seulement, elles sont pas tout le temps acceptées dans ces clubs-là, parce qu'il y a des clubs qui ne les acceptent pas. C'est une des difficultés, parce qu'il y a une recommandation de la fédération qui, recommande aux clubs professionnels de créer des sections féminines. Mais pour autant, ces sections féminines, même en les créant, les filles n'ont pas accès parce qu'on va leur demander si elles ont le niveau ou alors.
Pas partout, mais ça existe.
Le fait d'avoir des dirigeantes et des sportives qui servent d'exemple, c'est important. On a par exemple une ministre qui a été championne du monde dans sa spécialité. C'est important d'avoir ces modèles, Annie Fortems.
C'est important. Le processus identificatoire est extrêmement important. Oui. D'ailleurs, je pense que c'est bien parce que c'est une ministre féminine, une femme ministre. Elle a déclaré hier sur Twitter, même dans sur une chaîne de radio, elle a déclaré qu'elle souhaitait que la FIFA et la FFF augmentent les primes pour les joueuses. Donc, je pense qu'elle est beaucoup plus sensible à l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes parce qu'elle est une femme.
Et les figures identificatoires sont nécessaires aujourd'hui parce que, une petite fille, elle va s'identifier à qui? À Zidane et tout. En fait, il nous faut justement ces figures féminines identificatoires pour amener les petites filles à se dire, OK, effectivement, je peux jouer au football. Moi, ça amène aussi, justement, à la féminisation, quand on dit, on appelle une footballeuse, footballeur, il y a un problème.
Vous le disiez, Annie Fortems, les clubs et les fédérations sont essentiellement masculines. Là aussi, il faut essayer de féminiser au maximum les structures.
Je pense que, alors moi je parle du foot, mais en tout cas, je pense que la FFF a un énorme travail de féminisation des instances. Hein. Le Graët, en arrivant déjà, a commencé par les dirigeants au niveau de la direction. Mais sur tout le territoire, il y a un gros travail de féminisation des instances. La FFF a mis en place plein de formations sur les animatrices fédérales, je crois ils appellent ça, pour que des jeunes filles ou des femmes dans les territoires, au fin fond de la France, moi je suis originaire des Ardennes, au fin fond de mes Ardennes, là-bas, excentré. J'ai vu l'autre jour que le district des Ardennes mettait en place une formation financée par la FFF d'animatrice fédérale. Mais réservée aux filles, évidemment.
Oui. Mais la féminisation, en fait, des instances reste un problème pour toutes les pratiques sportives. Donc, c'est aujourd'hui très, très peu de femmes à la tête des institutions sportives. Donc, ça passe aussi...
Sauf le hand. Hein.
Oui, sauf le hand, où on a plutôt des hommes.
Sauf le hand et le foot.
Même dans les fédérations où on a le plus, on a des femmes, plus de femmes licenciées.
Merci Marie-Stéphanie Abouna, merci Annie Fortems d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Arnold Lasseva à la coordination, Léo Gâteau à la documentation et à la réalisation aujourd'hui de Donatien Cahu. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. N'oubliez pas, ce soir, sur nos antennes africaines et sur notre FM parisienne, le match de la Coupe du Monde féminine de football entre le Cameroun et le Canada en direct et en intégralité. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.